en ce moment même à Mende, c'est la
20e édition du 48e de rue du 3 au 5 juillet.
Spectacle, concert, théâtre, danse,
du in et du off.
C'est arpent bien le 48e de rue.
Et tout de suite, en direct sur Radio Bartas et sur 48FM, un plateau radio animé par
Radio Belsagne.
Belsagne pour vous servir.
Et n'oubliez pas, cette année, le 48e de rue a 20 ans.
20 ans ?
C'est un bel anniversaire, prépare le gâteau.
À la chibine.
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lucas et nous sommes en direct de l'espace événement Georges Fraîche pour le festival 48e de rue. Je suis accompagnée de mon pote à la compote, Gianni.
Salut à tous.
Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir les artistes présents sur le festival. Nous recevons tout d'abord la compagnie d'Aruma. Bonjour.
Bonjour.
Enfin, pour nous parler de l'organisation du festival, nous recevons Sam Priva, chargé de communication de l'association Laboart. Bonjour.
Bonjour.
De quoi parle votre spectacle ?
Alors, le spectacle Yes We Fight, ça parle du combat comme espace, comme lieu des possibles. En fait, c'est un duo féminin et on passe d'un duel à un duo. Et du coup, on essaie de dépasser les relations de domination et de pouvoir sur l'autre. Et plutôt que de se battre l'une contre l'autre, l'idée c'est de se battre ensemble contre une matière monde ou pour une utopie.
D'où vous est venue l'inspiration ?
Alors, au départ, c'est pas la thématique qui est venue en premier, c'était l'idée d'explorer l'intimité d'un duo, de la relation à deux, et d'explorer différentes rapport au corps de l'autre, c'est-à-dire juste qu'est-ce que ça fait de... Alors, je suis à la radio, donc je ne vais pas pouvoir... Il faut que j'aie des mots. Qu'est-ce que ça fait de toucher de cette façon, d'effleurer la peau? Qu'est-ce que ça fait de griffer, de taper? Et après est venue l'idée du combat. Et alors, je me suis posé la question de savoir si je mettais... deux hommes, un homme, une femme. Et vu que en cherchant, je voyais très peu de duos féminins dans la rue qui va dans une physicalité très engagée. Et donc, j'ai eu envie de faire un duo féminin.
Où se déroule la représentation ?
Alors, pour ce festival, la représentation se passe à 20h, place Urbain 5.
D'où vient votre compagnie ?
La compagnie d'Aruma, elle est basée à Clermont-Ferrand. Et c'est la première fois qu'on vient jouer à Mende.
Combien de temps avez-vous mis pour créer ce spectacle ?
Alors, généralement, un spectacle, c'est long à créer. Ça s'échelonne sur 2 ans, entre le moment où j'ai l'idée et l'envie de créer ce spectacle. Et puis, il y a des personnes dans la compagnie dont le travail... et de chercher des partenaires, que ce soit pour trouver de l'argent, des lieux pour travailler. Et puis moi, pendant ce temps-là, je constitue une équipe, donc trouver d'autres interprètes, des compositeurs pour faire la musique, peut-être un scénographe. Donc c'est environ 60 jours, mais échelonné sur 2 ans.
Depuis combien de temps ce spectacle tourne-t-il ?
Alors, la création est sortie en mars 2025, donc ça fait un peu plus d'un an et on a dû jouer une 20aine de fois.
Pourquoi avez-vous choisi ce nom de compagnie et de spectacle ?
Alors, le nom de la compagnie, parce que maintenant la compagnie elle a 20 ans et j'avais envie de trouver un nom dont j'aimais bien la sonorité. Et comme on se le disait tout à l'heure en off, on peut changer un peu la sonorité d'Aruma, d'Aruma. Donc voilà, et c'est que c'est un symbole de patience et de ténacité, un symbole japonais. Je me disais qu'il allait falloir de la patience et de la ténacité dans ce milieu. Et effectivement, il en faut.
Depuis combien de temps votre compagnie existe-t-elle ?
Alors ça fait 20 ans. Que la compagnie d'Aruma existe. Et pardon, je n'ai pas donné l'explication du titre Yes We Fight. Donc on savait qu'on allait explorer le combat. Et j'avais envie d'un titre un peu percutant. Et puis, c'est quelqu'un avec qui on travaillait, une dramaturge, qui a trouvé ce titre-là et qui fait référence au slogan de Barack Obama de « Yes, we can ». Donc, il y avait l'idée que quelque chose est possible, qui s'ouvre et voilà. Mais dans une lutte, mais une lutte positive.
Avez-vous déjà tourné à l'international ?
Un petit peu, mais c'est encore quelque chose qui nous manque, qu'on aimerait développer. Mais on a eu et joué au Maroc, Italie, et c'est tout. Encore, on n'est pas très... en Belgique aussi une fois, mais on joue peu à l'international, malheureusement.
Combien d'artistes composent votre compagnie ?
Alors, dans les bureaux, il y a 3 personnes avec qui je travaille. Et après, les artistes, ça dépend les spectacles. Sur celui-ci, Yes We Fight, on est 2 danseuses. Mais il y a eu beaucoup de monde pour travailler. Il y a eu un compositeur pour faire la musique, un collaborateur chorégraphique, parce que vu que je suis chorégraphe, mais que je danse dedans, j'ai besoin de quelqu'un à l'extérieur qui puisse me donner des retours et aussi me faire part de son expertise. Une dramaturge, il y a eu un scénographe pour construire une petite scénographie qui ressemble à un ring. Voilà. Et après, ça dépend les spectacles. Des fois, on est 3, 5, 6.
À quel public votre spectacle s'adresse-t-il ?
Alors, je nourris l'utopie que ça s'adresse à tout le monde, mais on va dire que c'est plutôt adapté à partir de 5-6 ans, même si on a déjà vu du jeune public plutôt être captif par ce spectacle. Mais quand on le joue en milieu scolaire, par exemple, on dit que c'est plutôt à partir du collège.
Quel message souhaitez-vous transmettre à travers ce spectacle ?
Parfois il suffit juste de changer de cible, parfois on s'obstine à se battre parfois contre soi-même ou contre l'autre, et parfois c'est pas la bonne cible, ou parfois il n'y a pas de cible, et plutôt que d'être contre, il vaut mieux être pour, et voilà, et c'est peut-être ça, et surtout dans la compagnie on essaie que le spectacle ça devienne pas que quelque chose qu'on regarde, mais plutôt une expérience collective, une expérience sensible et collective, quelque chose qu'on vit tous ensemble. Et c'est pour ça que le public est très proche de nous en quadrifrontale, pour que ça soit une expérience sensible et collective.
Merci les garçons, et que Léon va reprendre la main avant de vous la rendre. Pour rappeler le spectacle, donc c'est une pièce de danse en espace public où 2 femmes s'affrontent, comment on entre en scène, une manière de déconstruire le regard porté sur le corps féminin à travers la lutte et la danse. D'où vient l'idée pour vous de faire de la lutte un langage chorégraphique ?
Alors, dans la compagnie, on a un langage chorégraphique qui est toujours très physiquement engagé et sensible. Et du coup, même si je regarde l'ensemble des spectacles, il y a toujours quelque chose qui peut ressembler à quelque chose autour de la lutte. En tout cas, un engagement physique et même émotionnel. Et là, on en a fait une thématique à proprement dite, et on a été... explorer autour des sports de combat ou des sports d'opposition pour nourrir cette danse.
Ça a demandé une formation particulière pour les danseurs, danseuses, pour les danseuses du coup de d'apprendre à combattre.
Un petit peu, alors même si en fait on a beaucoup aussi un travail autour de la danse contact, mais je préfère dire plutôt du travail du contact que la danse contact, qui est une pratique à part entière et qui est souvent très douce. Et là, on a été dans quelque chose qui peut être proche de l'affrontement. Et donc, oui, on a été creusé autour du judo, de la lutte, même de l'escrime, sport d'opposition pour tenir à distance son partenaire. On a été même faire un stage avec des personnes spécialistes de Krav Maga, mais qui nous a pas tellement servi sur le corps à corps, mais plutôt sur des postures, des attitudes, puisqu'on est deux danseuses très, très différentes. Donc oui, on a été creusées dans des domaines qui nous étaient pas forcément familiers, mais pour moi, c'est important que de remettre les compteurs à zéro à chaque fois et d'aller explorer des nouvelles choses, sinon on s'ennuie un peu.
Qu'est-ce que dit ce spectacle du corps de la femme, du corps féminin dans l'espace public ?
Ah, je suis pas la meilleure placée pour en parler puisque je suis dedans, mais on va dire que c'est essayer d'apporter un regard plus universel et d'essayer de sortir de stéréotypes qui, malgré tout, existe, le corps de la danseuse, le corps féminin qui serait souvent plus fragile. Et en fait, je ne le crois pas. Ou même du corps féminin qui doit rester un peu propre. Ou même le corps de la danseuse ou des danseurs qui n'ont... On ne montre pas l'effort, on ne montre pas qu'on se salit, on ne montre pas qu'on transpire. Bah, là, tout ça est visible et on vient... alors, ce n'est pas esthétiser, rendre joli, mais en tout cas, le laisser voir et que ça ait une portée dramaturgique. Oui, voilà.
Est-ce que vous... Je vois pas la mise en scène exactement encore pour l'instant, mais je sais pas, j'ai imaginé ça de façon à voir, sans vraiment prévenir, un combat débuter dans la rue qui se transforme petit à petit en danse aussi, combat, et qui peut surprendre les gens. Est-ce qu'il y a de ça ou est-ce que...
C'est drôle votre question, et surtout que vous ayez pas vu le spectacle, c'est que c'était mon idée première de commencer comme ça. Ça arrive de nulle part et ensuite ça se transforme en un combat plus ritualisé. Mais en fait, on a changé de version et de tout de suite, que ce soit visible que c'est un vrai combat. Donc il y a une scénographie qui ressemble à un ring avec une cloche qui vient ritualiser et rendre sonores les rounds. Parce qu'en fait, la proposition que vous venez d'énoncer, ça pouvait perdre le regard en fait et poser la question de la violence. C'est-à-dire que si vous êtes public et qu'à côté de vous il y a deux personnes qui se mettent à se frapper, parce que là l'idée c'était vraiment de pas être dans du faux, de que vraiment on aille dans du physiquement très engagé, donc il y a des frappes. Et donc si on se met à regarder ça, on peut se poser la question de ça fait partie du spectacle, ça ne fait pas partie du spectacle, est-ce qu'elles sont d'accord ? Et donc il nous a fallu renoncer à ça et de se dire, il y a même un code dès le début du spectacle où on voit qu'on est d'accord pour aller dans cet affrontement. Et donc ça ne pose pas la question du entre guillemets consentement, c'est qu'elles sont ok pour aller là-dedans. Donc en fait non, il y a le code du costume et de la scénographie qui viennent signifier que toutes les deux sont d'accord pour rentrer dans cette physicalité-là. Mais c'est drôle que vous posiez cette question.
Mais merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Et merci à
Gianni et à Lucas. Gianni, tu vas reprendre la parole. Tu as peut-être des questions pour Sam.
Sam, combien de compagnies sont présentes sur le festival pendant le week-end?
Alors cette année, c'est 43 compagnies présentes sur le festival avec plus de 130 représentations.
Quelle est la date de création du festival 48e de rue?
Alors précise exactement le jour, je ne l'aurai pas, mais cette année on célèbre les 20 ans du festival aussi. Donc on est coordonné avec la compagnie. Et donc c'est une date anniversaire importante pour nous.
Est-ce que vous avez préparé quelque chose de spécial pour les 20 ans?
Alors vous allez découvrir plein de petites choses un petit peu partout, notamment pas mal d'ateliers, puisque cette année c'est plus de 14 ateliers que vous allez retrouver un petit peu partout sur le festival. C'est aussi le retour des afters sur les 3 jours au chapitre par Va comme je te pousse, avec des spectacles qui vont commencer d'ailleurs dès aujourd'hui là-bas et qui termineront par des concerts jusqu'au soir. On a plein de petites surprises. Vous allez découvrir des nouveaux petits mocktails aussi à Del Castillo, des lieux qui vont être investis, peut-être que vous n'avez jamais vu comme ça. Donc, plein de petites choses.
Est-ce que ce sont les mêmes compagnies chaque année ?
Alors non, pas du tout. Alors il y en a qui reviennent hein, de temps en temps, ça arrive, qui reviennent avec des nouveaux spectacles. Il y en a quelques-unes cette année d'ailleurs qui sont revenues, qui étaient déjà venues avant. Mais il y a une sélection chaque année de nouvelles compagnies par notre commission programmation qui mène un gros travail de visionnage et de sélection.
Pour l'instant, il n'y a pas de changement par rapport au programme sorti en trailer.
Alors on en a déjà un. Mais qui est plus un ajout qu'un retrait. Donc c'est une représentation supplémentaire qui vient s'ajouter au musée à 15h le samedi pour le concert de Dame Oiseau. Et de toute manière, pour les auditeurs qui veulent suivre les potentiels changements, parce que c'est très possible qu'il y en ait, hein, comme on vous le dit chaque année, c'est une équipe de bénévoles et il y a 43 compagnies, donc ça arrive qu'il y ait des petits couacs. Je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Il va y avoir un post épinglé avec tous les changements en temps réel. Donc c'est le plus fiable.
D'accord. On en reparlera en fin d'émission. Juste par rapport au programme de la journée, dans les grandes lignes, quand est-ce que ça commence? Quand est-ce que commence l'ouverture Est-ce qu'il y a des afters?
Alors aujourd'hui, ça commence à 14h avec le mariage de Mika, place Henri Trémollet de Villers. On va avoir du off, du in qui commencera à 17h30 avec Cultivons les tenailles. Et on a des afters. À 18h, il y a les baby DJ qui commencent au chapitre. Et ça finit encore bien plus tard avec DJ Scafit pour la soirée.
Gianni, je te laisse la parole.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
Avec
on
plaisir.
Fait tout de suite une courte pause musicale.
Allez, avec Atomic Ping Pong, qu'on va retrouver en concert.
Ce soir. Tout à fait.
Merci.
Des charlatans, des charlatans.
En ce moment même, Amande, c'est la
20e édition du 48e de rue du 3 au 5 juillet.
Spectacle, concert, théâtre, danse,
du in et du off.
C'est Arpin bien le 48e de rue.
Et tout de suite, en direct sur Radio Bartas et sur 48FM, un plateau radio animé par
Radio Belsagne.
Belsagne pour vous servir.
Et n'oubliez pas, cette année, le 48e de rue a 20 ans.
20 ans ?
C'est un bel anniversaire, prépare le gâteau.
À la chupille.
Nous sommes de retour pour cette deuxième partie de notre émission en direct sur 48FM et Radio Bartas. Toujours depuis l'espace événement Georges Fraîche, je suis toujours en compagnie de mon pote Lucas.
Rebonjour tout le monde.
Bonjour.
Nous recevons maintenant la compagnie Hannibal et ses éléphants. Bonjour.
Bonjour.
Ainsi que Nanani Nanana Production. Bonjour.
Bonjour.
Pour finir, la troisième compagnie sera la compagnie L'Hiver Nu. Bonjour.
Bonjour.
De quoi parle votre spectacle ?
Alors cette année, je viens avec un spectacle qui s'appelle Un pas au milieu des dragons. Et ça parle de comment on pourrait rester joyeux et résister en plein milieu de notre catastrophe écologique.
Alors nous, c'est une adaptation de l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Est-ce que vous connaissez, vous ?
Non.
Vous ne connaissez pas, voilà. Donc, c'est une dualité entre le bien et le mal.
Et nous, c'est un spectacle qui s'appelle « Qui meurt pendu ne mourra pas noyé ». Et contrairement à ce que le titre laisse comprendre, c'est un spectacle très joyeux aussi, qui parle d'amitié et d'amitié en enfance et du deuil des amitiés d'enfance.
D'où vous est venue l'inspiration ?
Pour nous, pour Un pas au milieu des dragons, on était en train de... Ça faisait longtemps qu'on voulait parler de comment penser le monde dans cette catastrophe écologique. Et on a lu des livres d'une dame qui s'appelle Isabelle Stengers, qui est une philosophe belge, qui vit encore. Et on a eu envie d'adapter ce qu'elle racontait.
Alors nous, bien, c'est le roman de Stevenson, qui est un auteur, qui a écrit Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et qui est toujours d'actualité, qui pose la question de la science. Elle est au service de qui, la science ? Et puis aussi, dans notre là plus intime, dans notre cheminement à nous, eh bien, on est en dualité entre le bien et le mal. Est-ce qu'on est toujours bon ? Est-ce que, voilà, donc ça nous intéressait d'aborder ce thème. Et je rejoins mes deux camarades. C'est aussi joyeux et avec plein d'humour aussi.
Et nous, c'était un exercice un peu particulier cette fois. On est parti de ce qu'on appelle l'écriture de plateau, qui est le fait de faire des improvisations au plateau et ensuite écrire la pièce. Et on s'est donné des thèmes, on s'est regardé, on s'est donné des impros et on a gardé ce qui nous a plu. Et ensuite, on a trouvé qu'est-ce qu'on voulait raconter avec ça. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des personnages qui étaient nés et des liens d'amitié et des fantômes aussi. Et à partir de ça, on a créé une histoire.
Où se déroule la représentation ?
Pour nous, ça se passe sur le square Émile Joly.
Et nous, c'est à l'espace Vabre.
Nous, ça va être à l'Aublet.
D'où vient votre compagnie ?
Nous, la compagnie L'Hiver Nu, on n'est pas loin de Mende, on est au Viala de Lannuéjouls. Juste derrière le Causse.
Nous, c'est une compagnie qui a plus de 200 ans d'existence. Et donc là, je représente la 7e génération. Il y a la 8e génération qui est en train du petit déjeuner. Voilà, donc plus de 200 ans. Et pour l'instant, on est installé en région parisienne à Colombes, dans les Hauts-de-Seine.
Et nous, au contraire, on est une compagnie qui vient de naître. On a un an d'existence. Et donc, c'est une compagnie émergente qui vient de Toulouse. Qui est porté par un collectif qui est lui-même né il y a 2 ans, qui s'appelle le collectif Dans la Poche. Et donc on vient du côté toulousain.
Combien de temps avez-vous mis pour créer ce spectacle ?
Je pense que nous, on a mis à peu près 1 an.
En général, pour monter un spectacle, il y a l'idée, puis il y a aussi les moyens financiers. Donc, entre le moment où on va solliciter des partenaires pour monter le spectacle, l'idée, l'écriture, le travail de plateau, le travail de recherche, de répétition, il faut construire les décors, il faut, il y a les costumes. Nous, c'est un spectacle masqué. hein, puisque ça permet à des comédiens de jouer plusieurs personnages. Chaque comédien joue plusieurs personnages. Eh bien, nous, on compte en moyenne à peu près 2 ans. Voilà.
Et nous, ça, encore une fois, ça a été un peu difficile à quantifier parce que c'est un spectacle qui s'est fait par commande à chaque fois. On nous a demandé de participer à des fêtes et des festivals et à chaque fois, du coup, on rodait un peu plus le spectacle. Donc, il s'est fait beaucoup avec le public et avec les interactions qu'on avait avec le public. Et au total, on a compté 3 semaines de résidence.
Depuis combien de temps ce spectacle tourne-t-il ?
Un pas au milieu des dragons, on l'a créé en 2018. Ça va bientôt faire 20 ans. 10 ans, quand même.
Oh. Et nous, on l'a monté en 2021. Ça fait 5 ans.
Donc, nous, on a commencé fin 2024. On l'a joué l'été 2025. À peu près 6 dates. Et là, on le reprend cet été.
Pourquoi avez-vous choisi ce nom de compagnie et de spectacle ?
Pour l'hiver nu, je me souviens plus tout à fait, mais quand on a créé la compagnie, on était en région parisienne, à Pantin dans le 93. Et on a créé la compagnie pour un spectacle qu'on allait jouer ici en Lozère. Et je crois que je me suis dit, si c'est possible de passer l'hiver nu en Lozère, alors tout va bien.
Alors nous, ça remonte à plus de 200 ans. Et en fait, c'était le premier spectacle de la compagnie. Bien sûr, je n'étais pas là. Et ils ont décidé de monter Hannibal. Tu connais l'histoire de Hannibal ?
Non, je ne connais pas.
Bon, alors, je ne vais pas la raconter ce soir, hein, parce que les auditeurs... voilà. Donc, Hannibal a traversé, on va dire, de la Tunisie par les Alpes avec des éléphants. T'imagines des éléphants dans les Alpes. Et donc, c'était le premier spectacle de la compagnie. C'est la traversée d'Hannibal. Donc, du coup, là, tu vas te renseigner, tu iras voir. C'est très intéressant. Et donc, c'était le premier spectacle de la compagnie. Puis, du coup, on a décidé... À l'époque, nos ancêtres ont décidé de s'appeler Hannibal et ses éléphants, dû à cette traversée des Alpes.
Alors nous, c'est un duo. Dans notre compagnie, on est deux. On fait toujours nos créations à deux. Et dans cette compagnie, il y a donc Ninon, qui est là derrière moi. Et moi, je m'appelle Elena. Et donc, on cherchait des noms et on s'est dit Ninon. Moi, on m'appelle souvent Nana. Du coup, ça faisait Ninon, Nana, Nana, Nina, Nana. Bah, ça tombe bien. En plus, c'est rigolo. Et vu que notre compagnie travaille à des blagues très sérieuses, on s'est dit que ça collait bien avec l'attitude de notre compagnie.
Depuis combien de temps votre compagnie existe-t-elle ?
Nous, on a créé la compagnie en 2007.
Moi, j'ai répondu à la question. Plus de 200 ans.
Oui, pareil, il y a un an.
Avez-vous déjà tourné à l'international ?
Je crois pas. En Belgique, peut-être une fois.
Oui, pays francophone, parce que c'est un spectacle qui est très gestuel, hein, puisque ça bouge, mais en même temps, on parle beaucoup. Voilà, on produit beaucoup de textes, et donc c'est dans les pays francophones, mais ça, bah, du coup, on a quand même été au Canada, on a été au Burkina Faso, et bien sûr, en Europe, Belgique, la Suisse. Voilà, oui, à l'international.
Oui, alors moi je ne l'ai pas dit, mais Nanani Nanana, en vrai ça s'appelle Nanani Nanana Productions, parce qu'on est une compagnie internationale. Si vous venez voir le spectacle, vous allez le comprendre. Mais en vrai, c'est surtout pas vrai. Et on est une compagnie qui voyage plus dans notre tête, mais oui, on a des aspirations internationales, pourquoi pas.
Bon début.
Combien d'artistes composent votre compagnie ?
En artistes, on est 2 permanents. Mais selon les spectacles, en fait, ça tourne. Donc là, par exemple, sur Un pas au milieu des dragons, on est 3 à jouer au plateau, plus le metteur en scène, ça fait 4. Et puis, il y a eu des spectacles où on était plus, d'autres moins. C'est assez variable.
Alors, nous aussi, c'est variable en fonction des spectacles. Mais sur celui-là, Jackie et Mr. Hyde, il y a 5 personnes au plateau, les comédiens et comédiennes, et un régisseur. Donc, on est en tout 6.
Nous, on est 2, donc Ninon et Nana. On est comédienne, metteuse en scène et on écrit. On est à la recherche d'un régisseur ou régisseuse dans l'avenir. Et sinon, dans le collectif dans lequel on fait partie, on est 7 au total.
À quel public votre spectacle s'adresse-t-il ?
Un pas au milieu des dragons, on le met à partir de 14 ans, parce que comme ça parle de pas mal de philosophie, c'est pas trop jeune.
Nous, en général, c'est des spectacles à voir en famille, pour Jekyll et Mr. Hyde, parce qu'il y a un peu de de mots un peu compliqués, des termes un peu pointus, eh bien on dit que c'est à partir de 8 ans, quoi. Mais de 8 ans jusqu'à 108 ans.
Nous, c'est tout public. On a toujours eu, enfin, même des enfants très jeunes ont plutôt aimé le côté visuel, donc ils sont tous invités à venir le voir. C'est un spectacle qui donc se joue comme un jeu d'enfant, donc qui peut parler très bien à l'enfance aussi, mais qui touche à un fond qui est plus pour les adultes, donc tout public.
Quel message souhaitez-vous transmettre à travers ce spectacle ?
Faut se battre encore.
Waouh. Mais il faut, voilà, donc ça traite du bien et du mal, donc c'est d'arriver quand même à réfléchir, à se cultiver, à lire, à se renseigner pour pouvoir changer ses comportements. Voilà, c'est une réflexion sur nous-mêmes et comment on agit avec les autres et avec soi-même.
Et nous, moi je dirais que sur l'importance de l'amitié, de garder nos liens, de l'importance de ne pas oublier des souvenirs et aussi de l'importance du théâtre comme outil de résistance pour garder un monde joyeux.
Combien de temps dure votre spectacle ?
Environ 1 heure.
1h13.
Environ 45-50 minutes.
Bon, pour rappel autour de la table, avec nous, nous avons la compagnie L'Hivernu qui nous présente son spectacle Un pas au milieu des dragons, trois figures proches des sorcières et questionne les réflexes rationnels à travers la poésie et la magie, en lien avec la pensée bien sûr de la philosophe écoféministe Isabelle Stenger. Pourquoi convoquer la pensée d'Isabelle Stenger sur scène ?
Là, comme je disais tout à l'heure, ça a été vraiment une rencontre par la lecture. C'est une philosophe qui est hyper abordable. C'est hyper rare, je trouve. Et elle a eu cette phrase dans un de ses livres qui disait « Bon, ben, on n'est pas face à une catastrophe, on est en plein dedans. » C'était il y a pas mal d'années déjà. Et si on panique, si on continue à dire « C'est grave, c'est horrible, c'est la catastrophe », alors on est tétanisé comme quand un camion nous arrive dessus et on ne peut rien faire. Et elle a eu cette très belle phrase qui disait en fait « Tout ce qu'il faut maintenant, c'est être de plus en plus joyeux et créer des liens de solidarité entre nous. » Et cette idée de la joie qui permettait justement de ne pas sombrer dans la déprime de la catastrophe nous a beaucoup plu.
On a l'habitude dans les spectacles de votre compagnie de revoir toujours ce lien au vivant et redonner une place au vivant. Comment ça se traduit dans cette pièce-là ?
Dans cette pièce-là, c'est vraiment sur la question de notre rapport à la Terre, et ça se traduit par un débat entre Isabelle Stenger et un autre philosophe qui s'appelle Francis Bacon, pas le peintre, qui est un philosophe du XVIe siècle, et qui lui est complètement rationnel et qui dit qu'il faut utiliser la nature, que la nature elle est là pour servir l'homme, et du coup ça se traduit dans ce débat-là entre deux, sur le progrès.
Comment on passe de la philosophie à la magie dans ce spectacle ?
Alors on commence par la magie. Et c'est la magie qui fait apparaître la philosophie.
Ouais. C'est la philosophie qui est magique aussi, quelque part.
On espère.
Ouais. Une représentation, donc il ne faudra pas vous louper, hein, c'est au Square Émile Joly, c'est dimanche à 14h, c'est ça, Claire ?
Oui.
Hannibal et ses éléphants, donc l'étrange cas de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, donc une adaptation burlesque. Hein, c'est en burlesque et grandiloquente du roman de Stevenson, traité comme une bande dessinée vivante. Donc je lis votre pitch, hein, un mélange effroi et comique dans une course poursuite trépidante. Alors comment on fait rire avec une histoire qui est censée faire peur ?
Il y a les deux, c'est pas nouveau, vous savez, hein, Shakespeare, eh bien, il y avait ce drame, les tragédies, et en même temps, à un moment donné, il y a les clowns qui apparaissent, et aussi, on a besoin de ça pour le spectateur, quoi, ça lui permet de respirer, on est tendu, puis il y a une petite respiration, on rigole, et puis on repart, donc on essaye de jongler avec ses sentiments, mais c'est vrai qu'on s'amuse à se faire peur, hein. Moi, je me rappelle, parce que je vois nos jeunes journalistes, là, bah, quand on est en colonie de vacances, eh bien, on se raconte des histoires qui font peur, et c'est ça, le but, c'est de s'amuser à se faire peur, mais ça va, on est bien entouré avec ses copains et puis on raconte des histoires qui font peur. Et ben c'est là, on invite à cette veillée-là, se faire peur, mais aussi il y a des personnages qui sont drôles, qui sont voilà, par rapport à Utterson, qui est le notaire qui lui dirige, hein, c'est mené comme une enquête aussi, ça peut être, c'est de la BD, c'est une enquête policière aussi, menée là, non pas par un policier, mais par le notaire, quoi. Donc on voit toutes ces étapes-là et comment avance l'histoire, donc il y a vraiment une dramaturgie, hein, dans le sens de l'action que nos spectateurs verront sur le plateau.
Cette histoire s'est devenue un véritable mythe avec le nombre de d'adaptation, merci, dans lequel il a pu apparaître dans tous les médias possibles. Comment ça se fait que ce grand classique reste aussi efficace aujourd'hui?
Ouais, vous savez, c'est le grand thème de la vie. Hein. L'amour, c'est un grand thème. Voilà, la guerre, l'argent, le rapport au pouvoir. Voilà, et puis bon, c'est les thèmes qui sont abordés là, par les deux compagnies. On voit bien cette interrogation du cheminement. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est comment on vit avec les autres. Et voilà, les politiques sont au service de qui? Est-ce que c'est l'intérêt individuel, l'intérêt général? La science est au service de qui? Des grands industriels, hein, ou bien au service vraiment des gens? Voilà, c'est toujours d'actualité. Voilà, et puis parfois on n'a pas. Alors bien sûr, ça a beaucoup changé, hein, et puis on avance, il y a des choses positives, mais il y a aussi, si on regarde un peu autour de nous, il y a aussi des choses désastreuses, donc mais pourquoi? Et très souvent on entend plus jamais ça, et puis ça continue.
Comment ça se traduit sur scène, le format bande dessinée?
Alors, bande dessinée, alors, donc du coup, derrière il y a des toiles. Il y a des toiles qu'on change. Donc il y a le côté case, il y a trois cases, et à chaque fois qu'il y a un décor différent, eh bien, de façon artisanale, pas électronique, eh bien, les comédiens changent les toiles, quoi. Donc il y a ce côté, de la scénographie, hein, qui rejoint les cases de la BD. Également, il y a les costumes, hein, qui sont tout et très dessinés, et aussi des archétypes, même si à l'intérieur de ces archétypes, bien sûr, il y a des émotions différentes, une dualité différente, donc qui rejoint la BD, et puis ce côté course-poursuite, quoi, histoire de paravent, qui, c'est apparition-disparition, quoi. Hein, le Hyde, hein, voilà, Hyde est arrivé, puis hop, il va disparaître, et on court après, donc il y a ce côté très rapide, et voilà, et très dessiné de la bande dessinée.
Alors juste une dernière question pour vous. 200 ans d'histoire, c'est pas trop lourd à porter? C'est pas trop de pression de devoir se mettre au niveau de ses prédécesseurs?
Là, c'est vrai que j'ai un certain âge par rapport à mes collègues qui sont plus jeunes. Et là, se pose la question de la transmission. Donc là, moi, je dis qu'on s'en est bien sorti. On s'en est bien sorti puisqu'on a voyagé un peu partout, qu'on est toujours là, qu'on fait des créations. La prochaine, ce sera sur l'intelligence artificielle. Et là, se pose la question de la transmission, justement, comment la 9e génération va poursuivre. Et c'est le cas là, puisque la plupart des anciens de la compagnie, ben, peu à peu, partent aussi à la retraite, ils ont le droit. Et donc, du coup, c'est comment maintenant le flambeau va être. Donc, la question aurait peut-être été plus appropriée à mon jeune camarade qui n'est pas là autour de la table, et voilà, c'est comment on va assurer cette transmission-là.
On peut donc retrouver ce spectacle vendredi à 21h15 à La Vabre, samedi à 21h15 aussi à La Vabre, et dimanche à 21h30 toujours à La Vabre. Nanani Nanana Production qui meurt pendu ne mourra pas noyé, un défilé théâtral où deux personnages, Mia et Justine, font ressurgir à travers leur imaginaire d'enfant la violence du monde contemporain entre jeu et lutte contre l'oubli. Comment le regard naïf des enfants permet-il de parler de sujets aussi durs?
Nous, on l'a fait en pensant vraiment à l'action de jouer. On fait des jeux d'enfants, et c'est les jeux d'enfants qui déclenchent les thématiques et qui déclenchent les personnages et qui, du coup, prennent ou pas une tournure plus ou moins violente. On peut, par exemple, parler du 1, 2, 3 soleil, on fait le jeu des familles aussi. Bon, forcément, ça déclenche des personnages nous en tout cas, ça fait ça, qui font partie de la famille, qui peuvent être plus ou moins relous, avec plus ou moins de discours. Aussi, on joue à imiter les adultes, à par exemple prendre dans leurs affaires des choses et se transformer en adulte, et puis reproduire ce qu'on écoute à la télé ou à la radio, mais toujours d'un point de vue de naïveté, et voir ensuite quelle tournure ça prend et à quoi ça nous rappelle.
Du coup, c'est en déambulation ou pas, ce spectacle?
Non, c'est un spectacle en dispositif bifrontal, donc en couloir, mais c'est à la Halle au Blé et ça reste à la Halle au Blé.
D'accord. Le titre est assez énigmatique. Qu'est-ce qui signifie pour vous?
Alors, c'est un titre. En fait, il y a une partie dans cette pièce où il y a un personnage qui parle que en proverbe, que en expression. Et il y a celle-ci qui a surgi. Et ça fait un peu partie de son discours. Et pour moi, ça veut dire. C'est un peu une phrase redondante qui veut dire. C'est comme ça, en gros. très simplement, hein, mais c'est comme dire quand le verre est à moitié vide, il n'est pas à moitié plein. C'est une phrase qui n'a pas, enfin, qui c'est comme ça.
C'est comme ça.
Et voilà, pour moi, ça veut dire ça.
Alors, plusieurs représentations, hein, c'est à l'Aublet, on l'a dit. Vendredi, donc aujourd'hui à 16h30, demain 11h30, 16h30 également, et dimanche aux mêmes horaires, 11h30, 16h30. Sous la l'Aublet, il faudra enlever la doudoune. Il faut enlever la polaire parce que...
il va faire chaud.
Il va faire chaud. Gianni, je te rends la parole.
Merci d'avoir été avec nous. Nous vous souhaitons de très belles représentations. Et on enchaîne maintenant avec une nouvelle pause musicale.
Allez, merci beaucoup, bonne représentation.
Merci beaucoup.
En ce moment même, Amande, c'est la
20e édition du 48e de rue du 3 au 5 juillet.
Spectacle, concert, théâtre, danse,
du in et du off.
C'est tarpe bien le 48e de rue.
Et tout de suite, en direct sur Radio Bartas et sur 48FM, un plateau radio animé par
Radio Belsagne.
Belsagne pour vous servir.
Et n'oubliez pas, cette année, le 48e de rue a 20 ans.
20 ans ?
C'est un bel anniversaire, prépare le gâteau.
À la chimie.
Nous sommes de retour pour la dernière partie de cette émission en direct sur 48FM et Radio Barthas depuis l'espace Georges événement Georges Fraîche. Nous accueillons nos deux derniers invités de la matinée.
Oui, Sarah... même trois parce que la compagnie, ils sont à deux.
Oui. Trois, Sarah Vaumourin, compagnie, bonjour.
Bonjour.
Cathy Delaby, coprésidente de l'association Laboart qui sera...
De Sam Priva qui vient nous rejoindre tout à l'heure. Exactement, Lucas.
Bonjour.
Allez, Jenny, une question.
De quoi parle votre spectacle ?
On rentre dans le vif du sujet. Alors notre duo qu'on présente là dans ce festival, c'est le duo Måneskin. Måneskin, ça veut dire clair de lune en danois. Et donc c'est un duo de danse contemporaine, pur, abstrait, comme on aime dans notre écriture. Et donc ça va parler de deux êtres qui se rencontrent. On pourrait s'imaginer dans une clairière, à l'orée d'un bois, dans une nuit au clair de lune. Et donc ces deux êtres vont nous ramener à ce qu'on a de plus animal et de plus essentiel en soi. Et donc ça parle de ça, de ces deux êtres qui se rencontrent, qui se cherchent, qui s'amusent et qui vont se questionner dans leur rapport primitif.
D'où vous est venue l'inspiration ?
Alors, cette graine d'idée de Måneskin est née pendant le Covid, en fait. Ça a été le moment où j'ai rencontré Ernest Mandap, avec qui maintenant je dirige la compagnie Sarah Vaumourin. Et donc, ça a été un moyen, en fait, de rentrer en relation, nous, dans notre travail. Et donc, c'est à partir de là qu'on a cherché des idées, et dans les gestes, et dans l'univers. Voilà.
Où se déroule la représentation ?
Alors nous, on danse là pendant le festival à la place Chaptal, donc dans le très beau cadre de la cathédrale. On est ravis.
D'où vient votre compagnie ?
Alors ça, c'est une chouette question, parce qu'on vient de loin, on vient de Nantes. Alors on est très très heureux justement de pouvoir présenter notre travail dans une toute autre région qui est la nôtre. D'habitude, on est plutôt dans l'Ouest. Et donc là, on avait à cœur vraiment de montrer notre travail ailleurs en France. Donc on vient de Nantes.
Combien de temps avez-vous mis pour créer ce spectacle ?
Alors effectivement, il s'est créé en plusieurs temps. On a commencé donc pendant le Covid, je le disais tout à l'heure. Il y a un premier module qui est né de ce spectacle. C'était une petite bulle de 9 minutes. Donc ça a démarré en 2021. Et puis on a laissé reposer cette idée-là. Et puis en parlant autour de nous, on a eu des opportunités pour présenter ce projet. Et donc il a pris un peu plus d'envergure, ce qui nous a donné envie d'écrire un deuxième module. Et ce qui a donné la forme que l'on va présenter là pendant le week-end, la forme de 21 minutes, qui est ce Måneskin tel qu'on le présente maintenant. Donc ça s'est créé, tu vois, sur 3 ans.
Depuis combien de temps ce spectacle tourne-t-il ?
Eh bien, la forme 21 minutes, elle existe officiellement depuis 2023. Donc voilà, il tourne depuis 3 ans.
Pourquoi avez-vous choisi ce nom de compagnie et de spectacle ?
Alors la compagnie, du coup, elle est à mon nom. Alors on n'a pas choisi de nom de compagnie spécifique. On y réfléchit. On aimerait peut-être, pourquoi pas, lui donner un autre nom que juste mon nom à moi. Après, pour le nom du spectacle, donc le mot Måneskin nous intéressait dans sa signification danoise. Comme je disais tout à l'heure, ça veut dire clair de lune en danois. Et donc pour nous, il permet de raconter, Ernest, tu peux en dire quelques mots si tu veux sur ce titre-là.
On représente des êtres, pas des humains, pas des hommes, pas des femmes, des êtres qui surveillent la nature, qui a liaison avec la lune, qui sort que de la nuit et puis voilà.
Donc en fait c'est le lien entre la lune et la terre qu'on essaye de mettre en avant dans ce duo.
Depuis combien de temps votre compagnie existe-t-elle ?
Et ben, elle a été créée voilà, officiellement en 2023. Donc en fait, Måneskin, c'est la deuxième pièce au répertoire de la compagnie. On est une toute jeune compagnie. Donc 2023, c'est la naissance de la compagnie, grâce notamment à ce duo. Il y a eu deux pièces qui ont été créées sur cette même année. Un solo pour le plateau, qui est un solo danse et harpe, parce que je joue aussi de l'harpe, le solo F. Et la même année, ce duo-là, qui était le choix de proposer une pièce courte qui peut se diffuser dans plein d'espaces différents. Voilà.
Avez-vous déjà tourné à l'international ?
Non, on aimerait bien. Les portes sont ouvertes.
Combien d'artistes composent votre compagnie ?
Alors, en tant qu'artiste, on est deux, Ernest et moi. Tous les spectacles ne se font pas à deux. Comme je disais, j'ai un solo qui a été le tout début de la compagnie. Et Ernest est avec moi sur le projet Måneskin en duo. Et là, notre futur spectacle qui s'appelle Patio Givré sera un trio. Donc la compagnie va s'agrandir. Et on accueillera prochainement un troisième artiste dans la compagnie. Mais pour l'instant, il n'est pas encore recruté.
À quel public votre spectacle s'adresse-t-il ?
Eh ben, Måneskin, on l'a écrit volontairement pour tous et toutes. Donc, il est vraiment tout public. Alors, au début, je mettais une réserve sur les spectateurs de plus petits âges. Mais finalement, on l'a présenté dans le cadre d'un événement en plein air qui était vraiment tout public il y a un an de ça. Et il y avait un enfant de 3 ans. Alors, j'ai été attentive à ce petit spectateur et il a été complètement captivé. Il n'a pas du tout décroché des 20 minutes que l'on a présentées. Et il a même pris possession de la scène une fois qu'on avait libéré l'espace. Il est venu danser et il avait chopé des gestes qu'on avait proposés pendant les 20 minutes. Donc, on s'est dit que finalement, c'était vraiment tout public.
Quel message souhaitez-vous transmettre à travers ce spectacle ?
Eh bien, on va dire que notre message est assez ouvert. On a à cœur de défendre ce que la danse contemporaine peut proposer, c'est-à-dire l'ouverture vers l'imagination. C'est-à-dire que nous, on ne va pas proposer quelque chose de narratif et on ne va pas forcément guider le spectateur vers un choix tout fait de ce qu'il peut penser de notre spectacle, mais au contraire, avec notre écriture abstraite, lui permettre de s'imaginer des situations différentes. Et il y en a qui nous voient comme des papillons, comme des chauves-souris, comme des êtres tribaux. Et du coup, on reçoit ces retours-là des spectateurs et c'est très très chouette de voir que chacun a pu construire son histoire. Donc on défend ça de la danse contemporaine qui permet à l'imagination de vivre.
Kachi, est-ce que vous recevez des demandes spécifiques de la part des compagnies ?
Oui, des demandes spécifiques variées qui peuvent être de l'ordre de tout simplement l'installation logistique, à savoir prévoir deux tables ici, une rallonge là. Ça peut être aussi des petits accessoires dont ils ont besoin pendant leur spectacle. Ça peut être un saucisson local. Ça peut être... oui. On essaye le plus possible d'y répondre par la positive dans la mesure de nos moyens.
Combien de bénévoles sont présents au sein de l'association ?
Alors, on a deux réponses pour cette question. Pendant toute l'année, on travaille avec une vingtaine de bénévoles qui préparent le festival. Il faut savoir que le festival se prépare dès le mois de septembre. Voilà, la mi-septembre, on fait un bilan de l'édition et ensuite on repart sur l'année d'après. Donc, on est une vingtaine à l'année et pendant le cœur du festival, en ce moment, là, depuis quelques jours, nos bénévoles montrent jusqu'à... Là, on a 130 bénévoles inscrits voilà, pour faire fonctionner 4 sites. Donc, 4 sites, plus la maison du festival, plus les cuisines, plus... Voilà. C'est important et on est vraiment content d'avoir autant de bénévoles inscrits.
Est-ce qu'il y a des spectacles qui se jouent en même temps ?
Ah oui, c'est le principe du festival et de la richesse du festival. Donc, on a 3 lieux de in. Peut-être même on peut dire 4. Toutes les rues et toutes les places de la ville, encore plus cette année, qui sont occupées puisque on a des spectacles qui fonctionnent en in, c'est-à-dire avec un bracelet, et d'autres en off. Et cette année, on accueille 27 compagnies de off. Voilà, pour vraiment mettre en avant la richesse de tout ce que nos artistes peuvent nous proposer.
On va pouvoir se restaurer au 48e de rue ?
Ah oui, bien sûr. Oui. On peut se restaurer de différentes façons. On peut se restaurer sur les buvettes qu'on propose aux festivaliers au niveau de l'association. Donc, il y a la buvette Émile Joly, la buvette Chaptal, donc juste à côté de la cathédrale, la buvette Del Castillo. Et puis, bien sûr, on a tous les bars-restaurants de la ville de Mende qui peuvent accueillir les festivaliers avec grand plaisir. Et c'est ce qu'ils font chaque année. Donc, on en est ravis.
Cathy aime bien parler des assiettes repas, alors je leur ai rajouté une question sur la restauration. C'est quoi cette année, les assiettes repas? On va voir quoi?
Cette année, on est resté sur des assiettes fraîcheurs, hein, étant donné la météo. Donc, pas de plats qui vont être cuisinés chauds. On propose des assiettes, donc les fidèles vont les reconnaître, mais avec des recettes. On a mixé cette année des recettes mythiques. C'est pour ça qu'il y a une proposition qui s'appelle la mythique. Puisque 20 ans du festival, donc dans la mythique, on retrouve la salade grecque qui avait beaucoup plu et qu'on avait fait disparaître de nos menus depuis quelques années, qui revient en puissance, accompagnée d'un gazpacho, d'un houmous et d'un cake courgette curry noisette. On a d'autres propositions à chaque fois. Donc l'idée, c'est une assiette composée de une soupe froide, une salade fraîche préparée dès le matin et un petit cake et un petit tartinable. Voilà. Regardez les menus, on essaye de les respecter le plus possible avec des produits le plus possible locaux et frais et cuisinés avec amour.
Merci Cathy. Sarah Vomourin, Compagnie Maneskin, une pièce de danse de 21 minutes mettant en scène deux êtres oniriques dépourvus de genre aux frontières de l'animalité et de l'humanité entre gravité et sensibilité. C'est à Place Chaptal vendredi, donc aujourd'hui à 17h30, demain 14h, 16h30, dimanche 14h, 16h30. C'est un format court, hein, 21 minutes.
Tout à fait.
Ouais, ça impose des contraintes d'écriture chorégraphique, du coup, que ça soit court ou pas forcément?
Bah oui, il faut être efficace dans le développement, mais du coup, ça nous convient pour... un début de compagnie aussi.
Voilà, il y a avec la canicule en pleine chaleur, c'est pas mal.
À 14h, on s'est dit que
14h.
Tout à fait.
Super, merci beaucoup. On attend bien sûr le public nombreux à cette représentation. Pour clôturer, Sam, tu nous rappelles le programme de la journée?
Alors, on commence les spectacles à 14h avec le mariage de Mika, place Henri Trémollet de Villers. Et ensuite, vous allez retrouver donc du off jusqu'à 17h30 avant l'ouverture du in à 17h30 avec Cultivons les tenailles. Et du in et du off encore jusqu'à 23h et une soirée aux afters sur le chapitre avec spectacle, mais aussi DJ et concert.
9h59 minutes et 20 secondes, on est parfait. Lucas, il est l'heure de s'arrêter.
Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Nous nous retrouvons demain à 9h, toujours depuis l'espace événement Jean Lefraîche, pour un nouveau plateau radio consacré aux compagnies présentes sur le festival 48e de rue. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. À demain sur 48FM.
Bye tout le monde, à demain.
Allez, on se quitte avec Nakada qui sera en concert pour ce 48e de rue. Bye bye, merci.
Merci à vous.
Merci.